Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du podcast des éditions Des Clés de Brouwer baptisé 10 décibels. 10 décibels, un nom qui n'est pas choisi au hasard puisqu'il renvoie au bruit du vent dans les feuilles des arbres, autrement dit du murmure d'une brise légère, comme nous dit la Bible pour parler de la voix de Dieu. C'est aussi le volume sonore moyen qu'on enregistre dans les bibliothèques. Ce podcast fait écho, vous l'aurez compris, à la vocation des éditions Des Clés de Brouwer, être un pont entre les intuitions profondes de la culture contemporaine et la pensée chrétienne. Dans ce podcast, nous nous efforcerons donc d'être des passeurs en vous faisant entendre les auteurs qui font l'actualité de DDB. Et pour débuter ce nouveau numéro, nous laisserons la parole à Fabrice Adjadj qui nous fait regarder autrement les animaux en nous entraînant dans le dédale des Écritures Saintes où ils sont omniprésents. On s'intéressera ensuite à la question délicate mais essentielle du célibat des prêtres. La théologienne Marie-Jo Thiel plaide pour son caractère non obligatoire. Elle nous dira pourquoi. Le journaliste et poète Stéphane Bataillon nous fera prendre du recul en revenant sur son expérience de retraite monastique qui ont été pour lui fondatrice et décisive. Nous poursuivrons notre quête d'intériorité et de recherche de cette lumière divine qui sourd en chacun et chacune de nous grâce successivement au dominicain Bernard Durel et à la théologienne Marie-Christine Azaël-Massieu. Dans le livre qui fait l'actu en lien avec la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, nous parlerons avec Laurence Talabourdillon de la mort d'une manière renouvelée grâce aux ressources de la foi chrétienne. Et puis, comme c'est désormais notre habitude dans ce podcast, nous nous intéresserons à un livre qui a marqué l'histoire de DDB, focus aujourd'hui sur un texte très personnel d'Éloi Leclerc dont nous proposons une nouvelle édition, Le Royaume Caché. Dans son dernier livre, Le Dieu des Bêtes, Fabrice Adjadj nous fait regarder autrement la nature et en particulier la faune. Pour cela, il ouvre le grand livre des Écritures dont les récits fourmillent d'animaux petits et grands, majestueux, minuscules, inoffensifs ou menaçants. La Bible est en définitive une véritable arche de Noé, une présence des bêtes qui n'est ni un décorum, ni le fruit du hasard, mais une des composantes du plan de Dieu, Fabrice Adjadj.
On ne peut pas entrer en vraie relation avec Dieu, sinon sous peine de tomber dans une abstraction, dans un puritanisme, si on ne reconnaît pas la merveilleuse diversité de la création, c'est-à-dire sa créativité à travers toute la gratuité des diverses formes animales. On est toujours ébloui et on voit que celui qui donne les 10 commandements, c'est aussi l'être de la plus haute fantaisie. Et entrer dans cette gratuité déjà, c'est déjà comprendre la liberté, la grâce de Dieu. Et comprendre aussi, dès lors, parce que la Bible nous parle à travers toujours la création, qu'il est impossible de s'élever même vers lui sans passer par les bêtes, non seulement à travers la relation d'élevage, puisque Dieu est un bon pasteur, et puis d'autre part, à travers ces bêtes qui sont aussi un répertoire d'images, de métaphores pour comprendre le mystère.
Les exemples de récits bibliques où les animaux sont présents et parfois tiennent le premier rôle sont nombreux. Il y a bien sûr Noé et son arche, on l'a déjà évoqué, le lion de Juda, le veau d'or, mais aussi le bélier qui remplace Isaac. Outre cette référence de la Genèse, le bélier est régulièrement convoqué dans la symbolique juive et chrétienne.
À chaque Yom Kippour, à chaque grand pardon, c'est marqué par le fait de souffler dans une corne de bélier, cette corne de bélier qu'on appelle Yobel. Et c'est de là que vient le mot jubilé, jubilation. Il n'y a pas de jubilation sans bélier, voilà. D'autre part, c'est bien sûr le jeune bélier, c'est un agneau mâle. L'image du bélier dit bien ce qu'est le chrétien, pas celui qui enfonce des portes ouvertes, mais celui qui est capable d'abattre par ses cornes aussi les remparts de l'injustice. Et bien sûr, quand on parle du Christ comme agneau de Dieu, on le voit très bien d'ailleurs dans un très beau tableau de Zurbaran, où l'agneau de Dieu est présenté avec des cornes. Et donc, c'est un bélier.
Dans son livre, Fabrice Adjadj nous fait donc relire la Bible en compagnie des bêtes, non par simple plaisir bucolique, mais bien pour nous mettre à leur école, car oui, aussi curieux que ça puisse paraître, et dans le sillage des maîtres du Talmud et des pères de l'Église, les animaux peuvent devenir d'authentiques maîtres spirituels qui nous apprennent à correspondre toujours davantage à notre vocation.
Il y a toute une tradition qui est très ancienne, qui est biblique, mais qui va être sans cesse reprise par les pères de l'Église, notamment par Basile de Césarée dans son Exeameron, l'œuvre des six jours, qui cherche à voir dans les bêtes et dans leur comportement et dans leur forme, la croix que le vol des oiseaux trace dans le ciel, toujours un enseignement de Dieu, un enseignement moral, et donc de voir dans ce qu'il y a de plus bestial, un enseignement spirituel.
La deuxième phase du synode sur la synodalité s'ouvre en ce mois d'octobre, l'occasion d'aborder en profondeur des sujets issus des réflexions des fidèles à travers le monde. Même si elle ne semble pas être la question prioritaire à l'agenda de ce synode, le célibat ecclésiastique revient souvent dans les discussions plus ou moins informelles parmi les laïcs, les prêtres ou les évêques, et beaucoup plaident pour son caractère non obligatoire. La théologienne Marie Jotil affronte la question dans son dernier livre « La grâce » et la pesanteur.
Des prêtres évoquent ouvertement leur difficulté à respecter ce choix de vie. Et ils sont entendus dans leur expérience de curé, souvent marquée par leur solitude et les sollicitations de leur existence corporelle. Or, pour nos contemporains, la possibilité de s'autodéterminer librement est essentielle. D'autant que l'obligation du célibat, c'est aussi celle du renoncement à la paternité, à l'intimité d'un couple, même s'il ne faut pas idéaliser, notre société ne le sait que trop.
Dans son livre, Marie Jotil revisite de fond en comble ce sujet du célibat ecclésiastique en recourant à l'histoire, mais aussi à d'autres ressources comme la sociologie, la psychologie, la théologie ou la spiritualité. Émerge alors de cette étude fouillée et accessible cette idée selon laquelle la discipline du célibat ecclésiastique ne ferait plus immédiatement signe aujourd'hui. Et cela, il faut l'entendre, nous dit la théologienne, on ne doit pas avoir du célibat des prêtres une vision figée.
Ce n'est pas là un dogme, mais une discipline ecclésiastique réformable, et une telle réforme ne signifie pas se conformer à une mode ou à l'idéologie du temps présent. C'est un principe de réalisme, comme si la crise des abus commençait à lever un déni séculaire et nous apprenait à mieux écouter, à entendre les difficultés et à vouloir y répondre. On ne peut pas se réfugier derrière une discipline ecclésiastique et regarder s'enfoncer dans le désarroi ceux qui ne peuvent vivre cette exigence. Il y a donc beaucoup à faire.
Il y a donc beaucoup à faire et beaucoup à attendre d'un changement de discipline du célibat ecclésiastique dans la crise que traverse aujourd'hui l'Église. Mais ce n'est pas pour autant la solution miracle. Il s'agit d'une première étape pour construire une Église plus synodale, où primerait avant tout l'égalité baptismale, comme nous le rappellent notamment les enseignements du christianisme des premiers temps, Marie Jotil.
Rappelons-nous, si l'on revient à la Bible, à l'Évangile, aux épîtres de Paul, l'apôtre Paul, justement, ne connaît qu'une structuration de l'Église primitive, celle qui passe par les charismes accordés aux baptisés par l'Esprit du Père et du Fils. Des charismes, bien sûr, à discerner, mais des charismes qui ne sont pas une supériorité hiérarchique, des supériorités de pouvoir. Bien sûr, cela est à réfléchir ensemble, synodalement, et c'est un grand chantier qui s'ouvre, mais peut-être un chantier qui nous aidera à aller de l'avant dans une manière plus authentique de vivre l'Évangile, car c'est bien de cela qu'il s'agit avec cet ouvrage.
La grâce et la pesanteur, c'est donc le titre, vous l'avez entendu, du dernier livre de Marie Jotil. Deux mots, grâce et pesanteur, qui résument aussi bien souvent l'expérience des chercheurs de sens, comme celle de Stéphane Bataillon, journaliste et poète, qui a un jour décidé de franchir les portes de l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec dans le Finistère pour y vivre sa première retraite spirituelle. Elle sera suivie d'une retraite de jeûne à l'abbaye de Pradines. Dans son livre « Les heures décisives », il nous offre le récit ainsi au jour le jour de ce qui s'est alors joué spirituellement en lui, Stéphane Bataillon.
J'ai rencontré des gens dans un cadre préservé qui permet d'aborder des questions et des interrogations très intimes, tout de suite, que je n'aurais jamais eu avec d'autres personnes, même des gens que je vais interviewer dans le cadre de mon métier, que ce soit sur la vie professionnelle, la vie sentimentale, la foi, l'intérieur de la foi. J'ai eu tout de suite des échanges d'une grande intensité, d'une grande intimité avec les gens. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus séduit, transformé.
La quête de la paix du cœur, du silence intérieur, n'a pas fait l'économie des tiraillements ou des combats, mais dans ce nouveau rythme, à l'écart du bouillonnement du monde, Stéphane Bataillon va progressivement savourer la victoire de se retrouver lui-même. Il va quitter les oripeaux du paraître pour découvrir son être profond, appelé à se laisser façonner par le souffle de l'esprit. De là va naître un désir déjà exprimé dans l'enfance, celui du baptême.
C'est au fur et à mesure, effectivement, de ces chants, de rester face à une merveilleuse croix. J'étais vraiment tout le temps en face d'elle. Et je me disais, mais finalement, cet élan spirituel que j'ai, que je porte, je pense, depuis longtemps, est-ce qu'il ne se doit pas se condenser, se cristalliser et se déployer, finalement, avec ce pas décisif du baptême que je n'ai pas encore osé faire? Et c'est vraiment une alternance entre ces moments où j'étais à l'écoute des psaumes, en moi, et ces rencontres et ces paroles, et ce mystère, cette magie presque formidable de l'entrechoquement des paroles, entre ce qui était dit, un peu codifié dans la liturgie du jour, et tout l'inattendu de la rencontre. Les ponts qui se faisaient dans cette parole-là. Je pense que plus que tout, c'est cette parole découverte dans un moment qui aurait dû être un moment de silence et de recueillement. Et c'est ça qui est beau, je trouve, qui m'a, moi, transformé, qui m'a donné envie de sauter le pas du baptême.
Dans ce journal de bord, le journaliste poète, tout en sobriété, parvient à capter et transmettre au lecteur cette expérience spirituelle qui, si elle est personnelle, a la vertu de pouvoir faire écho au désir profond de paix, de joie et de liberté authentique niché au cœur de tout être humain, chercheur de sens, chercheur de Dieu.
À un moment, au début de la retraite, j'ai comme beaucoup demandé, si t'existes, c'est maintenant. Il n'y a pas eu de signe particulier, si ce n'est cet état assez fantastique que j'ai essayé de faire revivre dans ce livre, pour des gens qui n'auraient pas l'occasion d'y aller, d'habiter une parole, d'habiter dans la parole, d'habiter où la parole devient ce qui peut nous donner ce sens-là entre la vie et la mort vers la vie.
La quête de l'autre avec un grand A, de celui qui nous appelle à naître et renaître sans cesse, c'est bien la vocation du prêtre dominicain Bernard Durel, auteur de « Vers la source intérieure », un livre fruit d'un dialogue à bâton rompu avec le journaliste Jean-Claude Noyer. Cette recherche intérieure, il l'amène depuis de longues décennies à la frontière de la tradition chrétienne et de l'esprit du zen grâce à la lecture de quelques devanciers et des rencontres fondatrices.
Je suis entré dans le monde du zen, d'abord à distance et plus tard en rendant visite à Karlfried Durkheim. Donc Karlfried Durkheim est un de ceux qui a fait connaître la méditation dans l'esprit du zen en Europe. J'ai rencontré aussi le père Oshida, Shigeto Oshida, un dominicain qui venait du bouddhisme et qui est devenu chrétien et ensuite dominicain et que j'ai retrouvé d'abord en Europe et ensuite au Japon. Donc il disait de lui-même, vers la fin de sa vie, et les mots sont bien choisis, je suis un bouddhiste qui a rencontré le Christ.
Dans son livre « Vers la source intérieure », Bernard Durel revient sur les grandes étapes de son parcours peu banal, sur ses doutes, ses blessures ou les déceptions qui l'ont affecté. Mais malgré les obstacles sur le chemin, il n'a jamais douté de la présence mystérieuse et efficace de ce Dieu en qui il a mis toute sa confiance, et ce, grâce aux témoins de la foi qui, depuis le début, ont jalonné son existence.
J'ai rencontré les témoins, c'est pour moi le plus important, aussi bien les témoins anciens que les témoins contemporains. Ils m'ont donné vraiment de dépasser le premier stade ou du catéchisme, etc., etc. Mais j'ai vraiment, à travers ces témoins, rencontré le Christ vivant, ici et maintenant. Ce qui fait qu'aux quatre évangiles, bien connu, s'est ajouté ce que j'appelle un cinquième évangile, c'est-à-dire l'évangile aujourd'hui. J'ai trouvé cette expression pour la première fois dans un article sur Mère Teresa, présenté justement comme un témoin du cinquième évangile, et ensuite j'ai ajouté ma propre liste d'autres témoins.
Sa découverte fondatrice sera celle, nous l'avons dit, du dialogue incessant mené avec le bouddhisme dans l'esprit d'une fécondation, d'un enrichissement mutuel à l'écart de toute tentation syncrétiste.
Je dirais que le syncrétisme est une proposition stérile. Si on entre vraiment dans une tradition spirituelle précise, on voit que cette expérience requiert au fond toute une vie. Fondamentalement, il n'est pas possible de grappiller un peu à droite à gauche, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme. Je sais bien que beaucoup le font aujourd'hui, mais pour moi, c'est une voie, une porte tout à fait fermée. Donc, il faut, pour grandir, approfondir sa foi, son chemin dans une certaine tradition, ce qui n'empêche pas, c'est tout à fait mon cas, que plus tard, en fonction des, à la fois des épreuves de la vie, des bonnes occasions de rencontre, plus tard, on s'ouvre à une autre tradition et je parlerai, comme le bénédictin belge Pierre de Béthune, avec lequel je suis allé au Japon, je parlerai d'une hospitalité. Ce n'est pas un syncrétisme, mais comme je le disais tout à l'heure du Père Oshida, je suis un bouddhiste qui a rencontré le Christ. Alors moi, je dirais, je suis un chrétien qui a rencontré le bouddhisme.
Autre livre, autre auteur, autre chercheuse d'absolu, une femme cette fois, universitaire, théologienne, spécialiste des Pères de l'Église, Marie-Christine Azaël-Massieu prend pour point de départ de sa réflexion spirituelle dans son ouvrage « À la lumière de Dieu » l'un des sept dons du Saint-Esprit, celui d'intelligence. Attention toutefois aux faux amis, le don d'intelligence n'a rien à voir avec le QI des sachants ou des érudits.
Il y a des gens qui sont extrêmement complexés, qui disent « mais moi, je ne suis pas intelligent, je ne peux absolument pas comprendre ». Même quelques personnes qui m'ont dit « oh, je ne pourrais pas te lire, ça sera trop difficile », je dis « mais là, détrompe-toi ». Parce que ce n'est pas une question de capacité, de compétence, c'est quelque chose qui montre que tous, nous avons reçu ce don d'intelligence. Et je dirais même, nous le recevons tous les jours dans notre vie. C'est ça qui est beau avec les dons de l'esprit, avec les dons de Dieu. Ils nous sont donnés tous les jours de notre vie.
Nourrie de sa fréquentation des pères et des textes de l'écriture, Marie-Christine Azaël-Massieu nous fait entrer progressivement dans l'intelligence du don d'intelligence, c'est-à-dire cette capacité à voir Dieu, à accueillir sa lumière pour voir vraiment à quoi nous sommes appelés, et d'abord à aimer non du bout des lèvres, mais en acte et en vérité, avec le cœur.
Je parle de temps en temps d'ailleurs d'intelligence du cœur, parce que cette intelligence, c'est effectivement une intelligence qui constitue le cœur de notre relation avec l'autre. Ce tout autre qui est Dieu, bien sûr, et c'est lui qui précisément nous permet d'avoir ce don d'intelligence, mais avec l'autre, l'autre qui est l'image de Dieu. On l'oublie souvent. Et vous avez des personnes qui sont peut-être très loin des standards universitaires, mais qui ont une profonde intelligence de l'autre, de l'amour de l'autre, de tout ce qui peut avoir du sens pour lui.
Dans son livre « À la lumière de Dieu », Marie-Christine Azaël-Massieu nous offre une boussole sur ce chemin de transformation que nous sommes appelés à emprunter. Un chemin d'illumination progressive, à chaque fois différent, adapté à ce que nous sommes, à la rencontre d'un Dieu qui nous appelle à la vérité, à l'unité, à la liberté et au pardon.
Quand on commence à parler de la Bible, à citer un certain nombre de passages qui sont particulièrement significatifs dans ce domaine, eh bien, on fait un chemin, on commence un chemin. Alors, j'espère bien, effectivement, chacun ayant son chemin différent, donc je ne fais pas un guide, je ne donne pas des conseils, mais je pense que beaucoup de gens peuvent être sensibles à ça et se dire « ah, mais tiens, ça me parle d'une certaine façon, vous voyez ?» Parce que c'est une expérience que j'ai faite personnellement, très fortement, humainement, il n'y a aucun doute. Et je pense que d'autres peuvent la faire autrement et puis se dire que, eh bien, l'Esprit Saint, il est peut-être avec nous aussi.
Comme chaque année, à l'approche de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre, nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés en allant fleurir leur tombe. Bien souvent, nous sommes pris d'un vertige intérieur face à cette mort inéluctable, nous le savons rationnellement, mais à laquelle on n'aime pas trop penser, car elle reste une énigme, y compris pour les croyants que nous sommes peut-être. Laurence Talabourdillon, prêtre parisien et l'auteur de « La mort n'est pas ce que vous croyez » aux éditions DDB.
Nous savons tout à fait que nous allons tous mourir un jour. Cela emporte la disparition de notre corps. Et parce que nous ne savons pas très bien exactement qui nous sommes et comment nous sommes faits et ce qui vit en nous très profondément, comme nous ne le savons pas bien, nous résistons, ou plutôt nous essayons d'échapper à la nécessité d'apporter une réponse à ce devenir. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Et je pense que la mort est une question qui nous est posée. Donc en fait, comme nous sommes les seules créatures à savoir que nous allons mourir, une question nous est posée dans le cours de notre existence. Et je pense très profondément que la réponse que nous apportons à cette question tout au long de notre vie, c'est-à-dire que la position que nous prenons par rapport à la perspective de la mort, du jour de sa survenue, des conditions de sa survenue et de ce qui peut venir dans la mort même, participe à l'accomplissement de notre personne.
Pourquoi notre monde moderne s'ingénie-t-il à masquer l'idée même de mort ? Les promesses transhumanistes d'une vie expurgée de la mort ne sont en définitive qu'un miroir aux alouettes. Elles confondent prolongement, conservation d'une vie qui ne finirait jamais et l'éternité transformante à laquelle le christianisme nous appelle. Laurence Talabourdillon.
Alors nous confondons l'éternité avec une temporalité sans fin. Et on comprend que moins on a une vision claire de ce qu'est la vie de l'esprit, donc si on perd la vie intérieure, alors on perd aussi la perspective juste de ce qu'est l'éternité. Parce que l'éternité se réalise à raison d'une juste perception de ce qu'est la vie de l'esprit. Et je crois que c'est en étant humblement contraint à quitter ce corps et à traverser la mort, en fait, c'est un chemin par lequel nous sommes rendus à une juste expérience de ce qu'est la vie de l'esprit.
Selon les enseignements de l'espérance chrétienne, la mort n'est pas une fin, mais une ouverture. Cela, ce n'est pas une idée rassurante lancée en l'air, mais le fruit d'une expérience, celle de Jésus, expérience à laquelle nous pouvons être associés.
Nous ne pouvons vaincre la peur de la mort que si nous la regardons dans le Christ et avec le Christ, car le Christ nous aide. Lui qui, dans sa vie, a annoncé à ses apôtres qu'il était venu pour affronter la mort, c'est à travers lui que nous découvrons ce qu'est la vie. Donc il nous la dévoile, et il nous la dévoile dans sa relation à son Père. Donc Jésus entre dans la mort, accepte la mort, entre dans la mort, pour que triomphe de la mort sa relation à son Père, ce qu'on appellera pour nous, dans la vie chrétienne, la relation filiale que nous recevons dans le sacrement du baptême. Et donc Jésus nous montre qu'il n'y a de vie véritable qu'à raison de cette relation. Alors, relation d'un amour qui nous précède, hein. C'est d'abord parce que nous sommes aimés, parce qu'il est aimé, et qu'il nous dévoile dans sa propre résurrection le pouvoir de l'amour de notre Père des cieux, qui est de nous faire vivre, car nous sommes nés pour la vie.
Comme c'est désormais une habitude dans ce podcast, nous parlons d'un livre qui a marqué l'histoire des éditions Desclés de Brouwer, et c'est un ouvrage du religieux franciscain Éloi Leclerc que je vous propose de redécouvrir et que nous republions. Il s'agit du Royaume caché. Ce livre a pour point de départ l'expérience des camps vécus par l'auteur pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de cette expérience douloureuse mais fondatrice, Éloi Leclerc est devenu particulièrement sensible à l'immensité de la détresse qui peut submerger tout être humain confronté au pire de l'existence. Sur ce chemin de l'épreuve, le Christ nous précède, nous explique l'auteur dans ce texte porté par une émouvante sobriété de ton toute franciscaine. En méditant les évangiles, il met au jour le visage de l'amour crucifié.
«
Sans doute cette expérience des camps de la mort est-elle une expérience extrême, mais elle renvoie à l'expérience quotidienne, celle des grandes concentrations urbaines, sans âme, sans espérance, sans Dieu. Là aussi, jour après jour, l'homme souffre et meurt, seul, abandonné, jusque dans nos hôpitaux ultramodernes, au milieu de tout l'appareil de la science. Jadis, l'expérience de l'absence de Dieu était réservée à une élite, aux mystiques et aux saints. Aujourd'hui, elle est devenue le lot commun. Au regard de cette expérience, que signifie le message évangélique d'un Dieu amour ? Dans la nuit de la mort où Dieu se tait, quelle lumière, quelle espérance apporte la bonne nouvelle ? Le choc de cette question m'a conduit à relire les évangiles. Ma conclusion est que le message de Jésus s'adresse en premier lieu aux hommes qui vivent une telle situation d'abandon et d'éloignement, à condition bien sûr que ce message soit présenté dans ce qu'il a de proprement nouveau, non seulement comme une loi plus parfaite, mais avant tout comme la révélation ultime de Dieu au cœur même de tout ce qui crie son absence.
Vous venez d'entendre un extrait du livre « Le royaume caché » d'Éloi Leclerc, un ouvrage à lire lentement, à méditer, pour vivre nos souffrances, nos difficultés avec le Christ, soutenu par son esprit et ancré dans l'espérance. Petit rappel des ouvrages que nous avons évoqués dans ce podcast, « Le Dieu des bêtes » de Fabrice Adjadj, « La grâce et la pesanteur » de Marie-Jo Thil, « Les heures décisives » de Stéphane Bataillon, « À la lumière de Dieu » de Marie-Christine Azaël-Massieu, « La mort n'est pas ce que vous croyez » de Laurence Tallard-Bourdillon, et puis ce livre « Le royaume caché » d'Éloi Leclerc. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce podcast. 10 décibels, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Yann Marc pour la réalisation de ce podcast, auquel je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à le partager, à le recommander à vos proches. Et à très vite pour un prochain numéro. Et d'ici là, bonne lecture.